La révolution microbiote, Véronique Lies sur Nutri Radio.
Bonjour Véronique.
Bonjour Fabrice.
Véronique Lies, toujours dans les studios de Nutri Radio, chaque mercredi matin à 10h-11h. Je vous ai proposé un café, vous avez dit non. Je vous ai proposé une madeleine, vous avez dit non.
Voilà. Oui, c'est vous qui l'aviez faite.
Mais oui, je fais des madeleines pour les invités, pour les intervenants, histoire de les chouchouter un petit peu. Mais vous m'avez dit la madeleine, bon, c'est pas votre truc les madeleines.
Mais j'avais pas envie à l'instant T là.
Très bien. Bon, c'est pas le sujet de l'émission. C'était,
non.
J'aurais pu faire une transition du style. C'était une madeleine.
Sans
gluten. Puisqu'on va un peu parler du gluten. Évidemment, même si ça. Voilà, on va développer ça. Ce gluten et ce microbiote. Parce qu'on va un peu. On a tendance à diaboliser le gluten. Mais tout le monde n'a pas intérêt à arrêter le gluten. On va voir ça dans un tout petit instant.
Ah, vous avez déjà spoilé la fin en fait.
Ah non, j'ai dit peut-être que tout le monde n'a pas...
peut-être, ok.
Ouais, bon, vous avez compris. C'est moi qui ai écrivé les Colombos. C'est moi qui ai eu l'idée. C'était une erreur à la base. Ils m'ont dit, mais oui, t'as dit de donner coupable avant. Bah tiens, on va faire un truc. Bon, alors, les maladies cœliaques, le gluten, le lien avec le microbiote. On va voir ça tout de suite avec vous. D'ailleurs, rappelez-nous un peu cette histoire de gluten, de pourquoi c'est un problème aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est?
Bon, ben, on connaît évidemment, je pense, tous et toutes la maladie cœliaque.
Non, rappelez-nous ce qu'est la maladie cœliaque.
Bon, ben, la maladie cœliaque, c'est une maladie auto-immune qui va amener à ce que la consommation de gluten détruise les cellules de la barrière intestinale. Et donc, c'est une maladie dans laquelle il y a une réaction de notre système immunitaire, puisque c'est une maladie auto-immune. Et à côté de ça, on parle beaucoup également de sensibilité non cœliaque au gluten ou d'hypersensibilité non cœliaque au gluten. Ce sont en fait les deux affections les plus fréquentes quand on parle de troubles liés au gluten. Et ce sont dans les deux cas des maladies qui sont déclenchées et aggravées par l'ingestion de gluten. Mais ce ne sont pas les mêmes maladies puisque l'hypersensibilité non cœliaque au gluten, on n'a pas la fameuse on n'a pas cette réaction immunitaire identique qui entraîne la destruction de la muqueuse intestinale. Mais dans les deux cas, eh bien, on recommande évidemment, et là il n'y a pas de doute là-dessus, de supprimer le gluten, c'est très clair, mais à partir du moment où on a été diagnostiqué. La difficulté aujourd'hui, c'est justement ce diagnostic qui est très facile, entre guillemets, pour la maladie cœliaque. Je dis très facile, mais il y a parfois des diagnostics tardifs, hein, bien sûr. Mais si on cherche, on trouve. Tandis que, en ce qui concerne l'hypersensibilité non cœliaque au gluten, c'est moins facile. Et aujourd'hui, la problématique également, c'est que dans le blé, qui est clairement ciblé, c'est pas évidemment le seul, mais dans le blé, on retrouve d'autres substances, comme les ATI par exemple, qui pourraient potentiellement poser problème. Donc ce sont des inhibiteurs de l'amylase trypsine, hein, les ATI, et donc qui pourraient aussi provoquer des troubles intestinaux, alors que ce ne serait pas nécessairement le gluten qui le ferait. Et puis, on a aussi les FODMAPs. Il ne faut pas oublier qu'il y a des personnes qui, en consommant des FODMAPs, vont hyper ballonner et avoir des inconforts digestifs et qui pensent dès lors que c'est le gluten le coupable. Donc, ce n'est pas toujours simple de s'y retrouver. Et ça, tout ça, cette difficulté-là, a amené finalement un grand nombre de personnes à exclure catégoriquement le gluten de leur alimentation, ce qui n'est peut-être pas le meilleur choix.
On va marquer une toute petite pause, on va faire le lien évidemment avec le microbiote, parce que l'émission s'appelle La Révolution Microbiote, ce sera juste après ceci.
La Révolution Microbiote, Véronique Lies sur Nutri Radio.
Véronique Lies sur Nutri Radio pour nous parler aujourd'hui de gluten avec ou sans. Vous allez nous dire votre point de vue dans un instant. Mais pour revenir sur le microbiote intestinal, comment lui va influencer la digestion de ce gluten? Est-ce qu'il a un rôle là-dedans?
Alors, en tout cas, dans la capacité à le supporter, on va dire. Donc, ce qui a été montré, c'est que si on prend des témoins qui n'ont pas de symptômes et qu'on les compare à des patients qui sont atteints de la maladie de Crohn, eh bien, si on compare leur microbiote, on voit qu'il y a des différences. Et ça, c'est déjà un élément qui est important. Donc, le microbiote chez les patients qui n'ont pas de symptômes, ils vont avoir des bactéries plus bénéfique, on va dire, et moins de bactéries potentiellement nocives. Et donc, ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'il y a une dysbiose intestinale dans la maladie cœliaque. Donc, on retrouve ici l'impact de la composition de notre microbiote dans cette communication avec le système immunitaire. Et donc, on a des bactéries, alors on ne va pas rentrer dans les détails parce que c'est évidemment extrêmement complexe, mais on a des publications qui ont vraiment réussi à véritablement établir des profils de microbiote en fonction de vous êtes atteint de la maladie cœliaque ou vous êtes atteint de l'hypersensibilité non cœliaque au gluten ou vous êtes considéré comme quelqu'un de sain, on va dire. Et donc, on a vraiment des profils microbiens qui ont été associés à chaque profil, ce qui confirme ce qu'on savait déjà, à savoir que le microbiote joue un rôle dans la maladie cœliaque. Et on a notamment dans la pathologie de la maladie cœliaque une diminution de Fecalibacterium prausnitzii dont je vous ai souvent parlé puisque c'est une souche à caractère très très anti-inflammatoire. Et donc on retrouve chez ces patients non seulement une baisse de Fecalibacterium prausnitzii mais aussi une augmentation de pathogènes et notamment des Escherichia coli, des entérobactéries de manière générale qu'on va retrouver donc dans le mucus de ces patients atteints de maladie cœliaque. Donc, ça ne fait aujourd'hui plus de doute. On a un lien entre la composition du microbiote et le risque de développer une maladie cœliaque. Et fatalement, puisqu'on sait qu'il y a un lien entre... puisqu'on sait que notre microbiote, finalement, il se forme quand même de façon très précoce, hein, dans les 1000 premiers jours et même évidemment encore après, eh bien, il y a donc un déséquilibre de ce microbiote qui est présent dès le début de vie et notamment une baisse des bifidobactéries qui pourrait être clairement un cofacteur déclenchant de la maladie. Donc typiquement, les personnes, les bébés, j'ai envie de dire, les nouveau-nés, qui ont déjà un microbiote déséquilibré et qui vont manquer de bifidobactéries, vont être exposés à un risque augmenté de développer une maladie cœliaque ou d'autres problèmes, ça a été montré, pour les atopies, donc les allergies également.
Alors, je voulais vous poser une question sur ce régime sans gluten qu'il y a beaucoup de personnes qui adoptent. Certaines à raison, d'autres par peur, par prévention, en se disant bah, « si c'est pas bon pour lui, moi certainement pas ». Il y a quand même un lien, un effet, sur un impact sur le microbiote intestinal de ce régime sans gluten, et notamment sur le syndrome de l'intestin perméable, le leaky gut. Est-ce qu'il y a un lien avec la maladie cœliaque?
Alors, il y a un lien...
Qu'est-ce que j'ai dit? Vous me regardez bizarre.
Non, donc le lien avec la maladie cœliaque, je viens d'en parler.
Avec le syndrome perméable.
Alors dans l'hyperperméabilité intestinale, c'est une très bonne question parce que on a des publications et c'est ça qui fait peur un petit peu aux gens. On a des publications en effet qui montrent que le gluten a un petit caractère plutôt trigant, on va dire, provoquant de l'inflammation intestinale, mais et comment est-ce qu'on a observé ça, notamment par une augmentation de la zonuline circulante, la zonuline étant une protéine qui s'élève en cas d'inflammation intestinale et d'hyperperméabilité, mais surtout d'inflammation intestinale. Et aujourd'hui, on se rend compte que cette élévation de la zonuline, elle ne dure qu'une demi-heure et que ça revient dans des normes tout à fait normales, hein, dans des valeurs normales, dans les 30 minutes qui suivent. Et donc, on a sans doute un petit peu aussi exagéré ce caractère pro-inflammatoire du gluten. Mais par contre, ce qui aujourd'hui est clairement montré, c'est que le fait d'exclure le gluten de son alimentation totalement quand on n'en a pas besoin, eh bien ça va avoir un effet délétère sur la composition du microbiote.
Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans un instant. On va voir avec vous les effets du régime sans gluten chez les personnes en bonne santé. C'est juste après ceci.
La révolution microbiote, Véronique Lies sur Nutri Radio.
Alors, on parle du gluten, du microbiote. Arrêter le gluten lorsqu'on est intolérant, ça semble évident. mais de plus en plus de personnes se disent bah, si c'est valable pour l'un, c'est valable aussi pour moi, et donc je vais le faire en prévention, que ce soit pour moi, même pour mes enfants. Quels sont les effets du régime sans gluten chez les personnes en bonne santé? Est-ce que les personnes sans sensibilité particulière au gluten peuvent bénéficier de ce régime? Et est-ce que ça peut nuire à leur microbiote?
Tout ça sont des très très bonnes questions.
Je vous remercie madame.
Merci d'être venue.
Travailler pendant la pause.
Voilà. Mais donc la réponse est clairement oui. Donc pour répondre à vos questions, l'idée c'est que ça peut être délétère d'exclure totalement le gluten de son alimentation quand on n'en a pas véritablement besoin. Pour plein de raisons, on ne va pas passer tout en détail, mais dans les raisons, on a évidemment que très souvent, ça peut amener, vous savez, éliminer des familles entières d'aliments, ça peut entraîner des déficits hein, nutritionnels, très clairement, hein, le fait de supprimer complètement, on va peut-être manger moins de fibres, donc ça c'est déjà un aspect. Ça fait se tourner parfois vers des aliments ultra transformés sans gluten, qui sont de piètre qualité nutritionnelle, et tout ça, ça peut avoir également des effets délétères. Alors là, on se dit, oui, mais moi, c'est pas grave, j'ai exclu le gluten, mais je continue de manger beaucoup de fibres, des produits céréaliers, et je ne mange pas des aliments ultra transformés, donc moi, je ne crains rien. Eh bien, c'est pas si sûr. C'est pas si sûr parce que, justement, la problématique des études, c'est quoi un régime sans gluten? Est-ce qu'on a mis des aliments industriels sans gluten? Est-ce qu'on a remplacé par du riz, des pommes de terre et des aliments bruts? C'est toujours difficile, évidemment, dans ce genre d'études, de le savoir avec certitude. Mais aujourd'hui, on a de plus en plus de preuves pour dire que, eh bien, quand on exclut le gluten de son alimentation et qu'on n'en a pas besoin, ça va moduler le microbiote, mais pas dans le bon sens. On va avoir, comme je l'ai dit, plus d'entérobactéries, plus d'Escherichia coli, ce qui n'est jamais une très bonne chose. On va avoir toute une série de genres et d'espèces qui vont augmenter, comme des Slakia, etc., qu'on n'a pas spécialement envie d'avoir. Et on va avoir une diminution, par contre, de genres, d'espèces et de souches beaucoup plus intéressantes, et notamment de la famille des bifidobactéries, des lactobacilles et le fameux Fecalibacterium prausnitzii dont j'ai parlé, qui est très très impliqué dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Et quand je dis impliqué, c'est dans le sens protecteur, bien entendu. Hein, j'en ai suffisamment parlé. Donc l'idée, c'est de dire oui, mais pourquoi est-ce qu'on, enfin, comment ça se fait qu'on retrouve pas ces effets délétères chez les personnes qui doivent le supprimer? Ça reste relativement mystérieux. Toujours est-il que, bon, alors mystérieux oui et non, parce qu'évidemment quelqu'un qui consomme du gluten alors que son système immunitaire n'est pas capable de le gérer, ça va évidemment entraîner de l'inflammation qui va elle-même moduler le microbiote dans un sens plutôt délétère. Donc aujourd'hui, ce qui est très très clair, c'est que mieux vaut consommer un petit peu de gluten, et je ne suis pas en train de dire qu'on doit s'empiffrer de gluten, parce que évidemment, il y en a de plus en plus, ils en rajoutent, le blé n'a plus la qualité d'avant, donc qu'on ne me fasse pas dire, parce que je sais que ça va faire réagir évidemment, hein, ce genre de choses. L'idée, c'est de contrôler sa consommation, d'en consommer sans l'exclure totalement, mais sans abuser non plus, avec des aliments les moins transformés possibles, et de ne pas le faire de façon systématique quand ce n'est pas indispensable. Donc voilà, si quand je mange du gluten, je ne me sens pas bien, ça vaut évidemment la peine d'explorer, parce qu'à côté de ça, vous avez beaucoup de personnes qui ont un véritable problème et qui ne sont pas diagnostiquées. Donc, il ne faut pas oublier ça non plus. Hein. Donc, il faut, quand on a des troubles digestifs, être suivi par un professionnel de la santé.
C'est la première chose à faire quand on a des troubles digestifs, c'est-à-dire, je veux savoir déjà si je ne suis pas intolérant au gluten. C'est quoi, c'est un test
Alors, on va voir son médecin ou son gastro-entérologue. Ça peut être le gluten, mais ça peut être mille choses. Hein. Le syndrome de l'intestin irritable, ça peut être une intolérance au lactose, ça peut être... Voilà, c'est pour ça qu'il faut aller voir un médecin spécialisé et ne pas s'auto-diagnostiquer dès qu'on a trois ballonnements, je suis intolérant au gluten. Donc, je pense qu'il y a parfois peut-être une attirance un peu trop rapide et exagérée vers l'intolérance au gluten, mais... On ne va pas se mentir, c'est aussi une réalité qu'il y a beaucoup de non-diagnostics qu'il y a plus de problèmes avec le gluten qu'avant. Donc ça, c'est une réalité. Hein. Je ne suis pas en train de dire que c'est un ange absolu, mais il faut quand même ne pas systématiser cette exclusion qui va entraîner potentiellement d'autres problèmes et de déficits et de modulation du microbiote.
Alors, pour revenir sur l'apparition de la maladie cœliaque, en quoi les infections, les antibiotiques vont avoir un rôle dans l'apparition de ces troubles ?
Eh bien, le fait de prendre des antibiotiques va faire que vous allez abîmer, entre guillemets, fatalement votre microbiote. Vous avez notamment une baisse des bifidobactéries. Et on l'a dit, quand on a une dysbiose déjà à la base, eh bien, on va avoir une réponse immunitaire qui peut plus facilement ne pas être adaptée à ce qu'on voudrait qu'elle soit. Sans oublier aussi, d'ailleurs, qu'il a été montré que quand on retarde l'introduction du gluten trop longtemps chez l'enfant, on augmente le risque de développer toute une série d'allergies. Et alors après, la maladie cœliaque, c'est pas parce que si on est prédisposé, c'est pas parce qu'on en mange suffisamment à temps, entre guillemets, qu'on va se sauver. Hein, c'est pas ça que je veux dire. Mais en tout cas, de manière générale, aujourd'hui, on est plutôt dans une tendance à introduire les aliments dans une certaine fenêtre qui est autour de idéalement avant 6 mois, hein, entre 4 et 6 mois, pour justement éduquer son système immunitaire à accepter ce genre d'aliments. Mais là, je parle vraiment au niveau général et au niveau global.
Alors, si on voit ça, la popularité de ces régimes sans gluten qui fleurissent et qui sont de plus en plus forts, selon vous, pour terminer l'émission, quel impact ça peut avoir sur la diversité et la santé du microbiote dans les années à venir ?
Ben ça peut avoir un impact à partir du moment où vous avez une diminution des bifidobactéries, une diminution de Fecalibacterium prausnitzii, une augmentation des entérobactéries, etc. Ben ça pose évidemment un vrai problème. Maintenant, encore une fois, l'idée c'est de dire bon, on consomme des aliments les moins transformés possibles, mais il ne faut pas systématiquement exclure complètement le gluten de son alimentation. C'est pas du tout quelque chose qui est indispensable si ça n'a pas été validé, approuvé. Maintenant, moi je suis quelqu'un, il faut garder les pieds sur terre, hein. Si quelqu'un a vraiment des troubles digestifs à chaque consommation de gluten, ben, il faut aller consulter. Et peut-être que ça vaut en effet la peine que le gluten est responsable. Je parle de personnes ici, et il y en a beaucoup, qui n'ont aucun symptôme digestif et qui, comme vous disiez, en prévention, vont aller supprimer totalement le gluten. Et a priori, ça n'est pas du tout indispensable et ça pourrait même être délétère.
Bien, merci beaucoup. On rappelle le gluten présent dans les céréales, le blé, le seigle, l'orge, je lis hein, tout bêtement parce que franchement, j'ai pas la liste dans la tête, mais évidemment. L'avoine, certifiée sans gluten.
Voilà, l'avoine, c'est un peu controversé. Hein. À la base, normalement, dans l'avoine, il n'y a pas de gluten, en tout cas pas de gluten qui pose problème au niveau du système immunitaire. Mais donc, toutes les céréales que vous venez de citer et tous les produits dérivés, évidemment. Et puis le camut qui est du blé et l'épeautre qui est du blé. Donc ça demande quand même une petite connaissance en termes de lecture d'ingrédients et lecture des étiquettes.
Ça,
mais je rappelle que la législation prévoit que le gluten soit mentionné systématiquement pour les produits pré-emballés qui en contiennent. La difficulté, c'est les produits à peser quand vous allez acheter comme ça, ou au restaurant. Là, c'est beaucoup plus compliqué.
Pain, baguette, biscotte, pâte, tout ce qui est spaghetti, macaroni,
voilà,
etc.
Mais pour moi, le grand problème, chez pâtisserie, bien sûr, mais le problème, c'est vraiment au restaurant. Parce qu'il y a tellement de gens qui disent c'est bien sans gluten, et je pense que les restaurateurs, ils commencent à en avoir un peu assez.
Oui, c'est sans gluten.
Donc ils font, ouais, c'est ça, allez, encore une intolérante, machin, alors que vous avez quand même des gens qui doivent vraiment vivre sans gluten, et donc ça peut poser un vrai problème. Donc il faut être vigilant par rapport
Peut-on
à ça.
Peut-on avoir confiance aux restaurateurs, effectivement, entre les véganes, les végétaliens, les végétariens, les intolérants, machin? Oui, est-ce que s'il y a du gluten? Non, bien sûr que non, madame, allez-y, c'est des pâtes sans gluten, bam, et il faut faire attention.
Oui,
très
ou par
attention.
Manque de connaissances. sens, il y a de la sauce soja et eux, ils pensent que le gluten, c'est que pain, pâte, et voilà, et ils font peut-être des raccourcis. Ça demande une certaine connaissance et donc il faut être vigilant par rapport à ça.
Eh bien, merci beaucoup Véronique Liès. Elle était là avec nous dans les studios. J'espère que vous serez encore avec nous la semaine prochaine. Merci de nous suivre régulièrement, vous, chers auditeurs. Et si vous venez d'arriver, vous avez cette émission diffusée en podcast à partir de dimanche 18h. Au revoir Véronique.
Au revoir Fabrice.
On a passé encore un bon moment avec vous. On a bien flippé maintenant. C'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio.
La révolution microbiote, Véronique Liès sur Nutri Radio.